Chapitre 15.
Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie,
dit Nietzsche en approchant de Djebra.
Dans l'ancien monde, les garçons et les filles suivent l'enseignement de la confrérie de l'ordre et on utilise pour les former des concepts très simples.
La magicienne s'arrêta assez près de Richard, croisa les bras et eut un ricanement cynique.
Une seule différence. Pour eux, l'endoctrinement commence peu après la naissance. Les premières leçons sont basiques, bien entendu, mais on les leur répétera en les développant jusqu'à la fin de leur vie. Chez moi, il n'est pas rare de voir des vieillards assister aux sermons des prêtres de la confrérie. La plupart des gens, partout dans le monde, sont attirés par les structures sociales élaborées, et ils cherchent à connaître leur place dans le vaste ornigramme de l'univers. La confrérie de l'ordre leur fournit tout ce dont ils semblent avoir besoin en matière de superstructure. En d'autres termes, elle leur indique ce qu'il faut penser et comment mener leur vie. Plus on commence jeune, plus ce type de conditionnement est efficace. Une fois passé dans le moule de l'ordre, un esprit juvénile ne changera plus jusqu'au terme de son existence. Cela parce qu'on le prive de la capacité de mener une réflexion indépendante. Un être privé de son libre arbitre intellectuel s'accroche à ses maigres certitudes pour survivre et ne pas céder au vertige de l'angoisse. « Vous avez parlé de simplicité, »
rappela Djebra.
« J'aimerais bien voir ça. Alors allons-y. » L'ordre enseigne à ses fidèles que le monde des vivants est limité. La vie, éphémère par nature, n'a aucune réelle valeur. Nous naissons, nous existons, puis nous mourrons. L'après-vie, en revanche, donnerait accès à l'éternité. Nous savons tous que les gens doivent mourir et personne n'est jamais revenu de ce séjour-là. Puisque la mort est éternelle, ce qui compte, c'est l'après-vie, pas le royaume illusoire des vivants. Ce postulat posé, reconnaissons qu'il n'est pas bien compliqué, la confrérie enfonce dans la tête des gens l'idée qu'ils doivent se gagner un petit coin d'éternité dans la gloire toujours renouvelée de la lumière du Créateur. Notre séjour en ce monde n'est que le moyen d'accéder à l'infini, une sorte de rite de passage.
Djebra ne dissimula pas son incrédulité.
Mais la vie, eh bien, c'est la vie et rien ne peut être plus important que ça. Un discours si stupide ne peut pas convaincre des personnes sensées de se détourner de l'existence, et moins encore de devenir des brutes au service de l'ordre. L'existence ?
Répéta Nietzsche. L'air menaçant, elle se pencha vers Djebra.
Et ton âme, mon enfant, ne t'en soucies-tu donc pas? Ce qui risque de lui arriver jusqu'à la fin des temps, une éternité de tourments, ne t'inquiète pas un instant? C'est-à-dire que je...
commença Djebra. Nietzsche se redressa et haussa les épaules, poussant plus loin son imitation des palinodies d'un frère de l'ordre.
« Cette vie n'est rien, une illusion transitoire dans le meilleur des cas. Alors comment simplement oser la comparer à la glorieuse immortalité qui nous attend au-delà de la frontière obscure de la mort? Si elle ne sert pas à forger la résistance de l'âme, à quoi rimerait donc cette mascarade que tu nommes l'existence ?»
Bien qu'elle affichât son incrédulité, Djebra ne semblait pas prête à s'opposer à Nietzsche dans un débat théologique.
« Dans cet ordre d'idées, continua Nietzsche, se sacrifier pour les autres afin de satisfaire leurs besoins et leurs désirs est une façon de reconnaître que la vie n'a aucun sens et de clamer haut et fort que la perspective de l'éternité à la droite du Créateur est la seule chose qui doive motiver un esprit rationnel. » En se sacrifiant, un être humain affirme qu'il ne préfère pas le royaume illusoire de la vie au séjour éternel et plein de béatitude qui l'attend après sa mort. Le sacrifice de quelques décennies d'existence est donc le dérisoire prix à payer pour sauver son âme en prouvant au Créateur qu'on aspire à un bienheureux séjour dans sa gloire.
Richard fut fasciné par la manière dont ce ramassis d'idioties réduisait Djebra au silence. La personnalité de Nietzsche, véritable parangon d'autorité et de confiance en soi, en imposait à la pitié, qui quêtait du soutien auprès de Zed, de Kara, de Shota, voire d'Anna et de Nathan. N'en obtenant pas, la pauvre femme se décomposait à vue d'œil, se recroquevillant sur elle-même comme si elle désirait disparaître dans une des nombreuses fissures du sol en dalles de marbre.
« Si tu te consacres au bonheur terrestre, » continua Nietzsche, poussant son avantage, « te vautrant dans la luxure, comme un cochon dans son auge, tu proclameras au contraire que le plan parfait conçu par le Créateur pour sauver ton âme ne t'inspire que du mépris. Et cela, pécheresse, est le pire crime qui puisse commettre à la face de la lumière. Qui es-tu pour douter du Créateur, celui de qui toute chose est issue? De quel droit places-tu tes dérisoires petits désirs avant le grand dessein qu'il a conçu pour toi? Qui t'autorise, méprisable fourmi, à cracher ainsi sur l'éternité? »
Nietzsche marqua une pause, croisant les bras comme si elle entendait défier le monde entier de la contredire. Une vie entière d'endoctrinement lui permettait de restituer les sermons de l'ordre avec une conviction dévastatrice. Dans sa chemise de nuit rose, elle aurait dû paraître ridicule. Enfin, était-ce une tenue pour appeler les pécheurs à la rédemption? Dans son cas, il fallait croire que oui. Richard n'avait pas oublié l'époque où la magicienne lui tenait ses discours enflammés. En ce temps-là, elle était sérieuse et il en avait encore des frissons dans le dos. Exactement comme Djebra en ce moment.
« Pour répandre la sagesse de l'ordre partout dans le monde, comme en Galéa, par exemple, beaucoup de soldats devront périr. »
Nietzsche haussa les épaules.
« C'est dommage, mais qu'y faire? Ne s'agit-il pas de la plus belle cause pour laquelle un homme puisse sacrifier sa vie? Lorsqu'il meurt pour aider à convaincre des ignorants que la voie du Créateur est la seule acceptable, un guerrier s'assure de connaître la vie éternelle dans l'autre monde. Au fond, ne devrions-nous pas tous nous disputer cet honneur ?»
Nietzsche leva un bras gainé de soie rose pour désigner quelque chose devant elle que seuls ses yeux paraissaient voir.
« La mort est le portail qui donne sur la béatitude !»
s'écria-t-elle.
« Gloire à l'éternité du Créateur !»
Elle laissa retomber son bras et enchaîna d'un ton plus posé.
« Une vie n'ayant aucun poids dans le grand mystère de la création, il devient évident que torturer et tuer les mécréants n'est qu'un moyen d'aider les masses à ouvrir leurs yeux à la lumière. Qu'importe quelques cadavres, lorsqu'on apporte le salut à des légions de brebis égarées, si les enfants du Créateur retournent dans son giron, l'ordre impérial aura accompli sa mission sacrée et rien ne pourra lui être reproché. L'histoire jugera et nous devinons déjà dans quel sens elle tranchera. »
Nietzsche cessa d'afficher l'enthousiasme rayonnant d'une fanatique.
Quand ils entendent ces horreurs toute leur vie, les gens finissent par y croire dur comme fer. Du coup, tous les infidèles qui ne respectent pas les préceptes de l'ordre leur semblent mériter une éternité de souffrance entre les mains glacées du gardien. Et s'ils refusent le salut, c'est très exactement ce qui leur arrivera. Très peu de victimes de ce bourrage de crâne gardent la possibilité de raisonner différemment. Ils sont piégés et n'ont le plus souvent aucune envie d'échapper à leurs conditions. Pour eux, aimer la vie et viser son propre accomplissement est un marché de dupes, car ça revient à délaisser l'éternité en faveur d'un bonheur frivole, impie et provisoire. Résolus à renoncer à toute satisfaction séculaire, ils deviennent vite experts dans l'art de repérer les déviants, à savoir tous ceux qui refusent de se plier aux diktats de la confrérie de l'ordre. Dans un système comme celui que je viens de décrire, la délation est une vertu, le moyen de remettre sur le droit chemin les pécheurs qui s'en détournent au profit de valeurs mensongères.
Nietzsche se pencha vers Djebra et souffla sinistrement.
Dans le même ordre d'idées, massacrer les infidèles est un acte de justice, n'est-ce pas? Les élateurs de l'ordre abominent tous ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Selon la confrérie, ces adorateurs du mal ne sont d'ailleurs rien de moins que les disciples du gardien.
Pour eux, la mort devient une punition trop douce lorsqu'on y réfléchit un peu. Nietzsche écarta théâtralement les bras.
Les enseignements de l'ordre ne peuvent pas être remis en question, car ils émanent directement du Créateur, dont ils sont tout simplement la parole incarnée.
Accablé, Djebra n'était plus en état d'émettre l'ombre d'une objection. Par bonheur, ce n'était absolument pas le cas de Kara.
La parole incarnée, rien de moins ?
Lança-t-elle très calme, mais un rien ironique.
C'est magnifique. Mais j'ai peur qu'il y ait un petit défaut dans cette belle construction. Comment les frères et les prêtres de l'ordre savent-ils tout ça? D'où tirent-ils la certitude que l'après-vie est l'océan de gloire et de béatitude qu'ils nous décrivent?
La mort de Sid croisa les mains dans son dos.
Pour ce que nous en savons, ont-ils jamais exploré le royaume des morts? Sont-ils venus nous faire leur rapport ensuite? Que savent-ils exactement de ce qui se cache derrière le voile? Nous naissons dans le royaume des vivants, et c'est la seule réalité que nous connaissions. Comment osent-ils nous demander de sacrifier notre seul bien, la vie, en échange d'une promesse invérifiable? Quelle audace insupportable les autorise à prétendre qu'ils savent tout du royaume des morts. En l'absence de réelle expérience, qui nous dit que le monde des esprits, en admettant qu'il existe, n'est pas un royaume transitoire que nous traversons sur le chemin du néant absolu qu'est la mort? Dans la même veine, comment la confrérie de l'ordre peut-elle savoir ce que désire le Créateur? Au fond, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer qu'il désire quoi que ce soit? Ces gens savent-ils seulement si la création est vraiment l'œuvre d'un esprit conscient doté d'une volonté et d'une mémoire? Cette façon de représenter les choses paraît un peu trop anthropomorphique, pour être honnête.
Djebra semblait ravi que quelqu'un ait relevé le gant à sa place.
Nietzsche eut un sourire en coin et leva un sourcil.
« Tu as mis le doigt là où ça fait mal, Kara, »
dit-elle. Sans la regarder, elle désigna Anna, toujours réfugiée dans les ombres à côté de Nathan.
« La Dame Abbesse et les Sœurs de la Lumière nous vendent le même infâme brouet, et elles ont recours au même mensonge pour nous le faire avaler. C'est toujours un schéma identique. » Une prophétie, un grand prêtre ou un idiot du village touché par la grâce nous transmet les soupirs les plus intimes du Dieu suprême. Parfois, la supercherie passe par le biais d'une vision, une visitation, disent les dévots. On trouve même de très antiques textes qui prétendent tout savoir et tout révéler sur ceux qui se cachent derrière le voile. À cause de leur âge vénérable, ces recueils d'âneries pompeuses ont la réputation d'être irréfutables, comme si le passage du temps était une cure infaillible contre le crétinisme.
Mais comment vérifier l'exactitude de toutes ces affirmations?
Vous savez ce que répondent tous les tenants des grands mystères? Vouloir contrôler ces légendes est le plus grave péché qui soit. Manquer de foi, voilà la véritable horreur.
C'est la nature même du mystère, son opacité consubstantielle qui confère toute sa valeur à la foi et la sanctifie. Si l'objet d'une croyance se manifestait à ses fidèles, bref, s'il ne demeurait pas éternellement voilé, où serait le mérite des dévots? En revanche, une personne capable de croire aveuglément et sans jamais demander de preuves peut être tenue pour un parangon de vertu. En fonction de ce théorème, les véritables élus, ceux qui pourraient postuler à la sainteté, sont les bienheureux qui abandonnent les rivages désolés du réel pour s'embarquer sur les eaux tumultueuses du mysticisme.
En y réfléchissant, j'ai trouvé une métaphore parfaite pour décrire l'aberration de la foi.
Quelqu'un me dit de sauter d'une falaise et de ne pas avoir peur parce que je sais voler. Cependant, on m'interdit de battre des bras parce que cela trahirait un insupportable manque de foi. Et sauter sans croire, c'est l'infaillible assurance de s'écraser sur le sol. La preuve par l'absurde que tout manque de foi est un défaut de caractère qui peut être mortel.
Nietzsche passa les mains dans ses magnifiques cheveux blonds, les souleva un peu, les faisant onduler comme les voiles d'un bateau, puis soupira et laissa retomber ses bras.
Plus un enseignement se révèle dur à gober, et plus le niveau de foi requis est élevé.
Parmi les croyants les plus aveugles, un lien spécial se tisse très rapidement, le sentiment d'appartenir à un groupe d'initiés hors du commun. Les fanatiques de tout poil, en totale immersion dans un mysticisme souvent à trois ronds, éprouvent de plus en plus de mépris pour les incrédules qui ont déjà commis une sorte de crime en n'embrassant pas leur foi. Le mot « athée » devient alors l'injure suprême et le pire anathème qu'on puisse lancer sur quelqu'un. Bien entendu, ce mépris des imbéciles vise les gens qui s'en tiennent coûte que coûte à la raison. La foi est la clé de tout. La baguette magique que les aveugles agitent au-dessus de leur chaudron de stupidité afin de le faire bouillir. Même si elle foudroya du regard la traîtresse, après tout, Nietzsche était entre autres choses une ancienne sœur de la lumière, Anna ne s'engagea pas dans une ardente polémique. Richard nota que c'était une réaction rarissime de sa part et particulièrement judicieuse en cet instant précis.
Voilà le défaut qui lézarde inexorablement le bel édifice de l'ordre,
déclara Nietzsche, un index brandi. Elle se mit à faire les 100 pas, les pieds nus sur le sol de marbre.
Lorsqu'une conviction prend sa source dans l'imagination humaine, elle devient très semblable à ce qu'on appelle un géant au pied d'argile. Si imposante que soit la tour, sa base n'est pas solide et elle s'écroulera un jour. Même quand les individus sont sincères, les fantasmes collectifs ne résistent pas à l'épreuve de la réalité. Après tout, un aliéné qui entend des voix dans sa tête est également sincère et ça ne l'empêche pas de se tromper. Conscient de sa faiblesse, l'ordre fait de la foi la valeur suprême et met ses fidèles en garde contre la démoniaque tentation d'utiliser leur intelligence. Céder à ses sentiments, voilà ce qui sert la cause de Jagang. Gober tout ce qu'il y a à gober, rêver à l'éternité et attendre que la porte du bonheur céleste s'ouvre devant soi au son d'une divine musique de harpe et de luth. En d'autres termes, l'ordre s'échine à abêtir les peuples, et ce qu'il présente comme un savoir n'est qu'un infâme amalgame de superstitions. La foi étant sanctifiée, son absence devient un péché mortel. Le doute, bien entendu, est alors le premier pas sur le chemin de l'hérésie. En réalité, sans le paravent de la foi, toutes les foutaises qu'enseigne l'ordre seraient risibles d'idiotie. Puisqu'elle sert de mortier à leur improbable et branlante tour de la connaissance, la foi a besoin de soutien pour ne pas dépérir, et ce soutien, vous l'avez deviné, se nomme la brutalité. Sans l'aide de la violence, la foi devient l'innocente manie d'imbéciles inoffensifs. Elle ne pèse pas plus lourd que les fantaisies d'une reine qui croit son pays à l'abri d'une attaque parce que c'est ce qu'elle désire. Quand on travaille avec la réalité, tout est beaucoup plus simple. Aurais-je besoin de menacer l'un de vous si je voulais qu'il vérifie que les murs de ce hall sont en pierre ou qu'il y a bien de l'eau dans la fontaine? En revanche, l'ordre ne peut pas faire toucher du doigt à ses sujets le bonheur éternel qu'il leur promet. Sans la terreur, quel être humain accepterait de jeter sa vie à la poubelle dans l'espoir que sa mort sera un jardin semé de roses?
Alors que Nietzsche regardait fixement la fontaine, Richard songea que les yeux de cette femme auraient pu glacer l'eau en une fraction de seconde si elle l'avait voulu. La colère qui l'animait ce soir avait pour cause des abominations qu'elle avait vues tout au long de sa vie, trop souvent en y participant, car elle était alors une aveugle parmi les aveugles. Et pour avoir suivi son retour vers la lumière, le sourcier connaissait parfaitement le prix qu'elle avait dû payer. Parmi ses connaissances, quasiment personne n'aurait eu le courage de se remettre si radicalement en question.
Lorsqu'on veut convaincre les gens de mourir pour une cause, reprit Nietzsche, il faut commencer par leur faire voir la mort sous des traits séduisants, histoire qu'ils soient pressés qu'elle les étouffe dans sa puissante étreinte. S'ils pensent que leur sacrifice réjouira le Créateur, les jeunes soldats ont beaucoup moins de mal à exposer leur poitrine à une pluie de flèches et de carreaux. En enseignant aux gens la vertu de la foi, l'ordre fabrique des légions de monstres, prêts à mourir pour la cause et à tuer pour elle. Les vrais croyants détestent les athées et les agnostiques. Il n'existe pas de tueur plus impitoyable, brutal et vicieux qu'un défenseur de la foi aveuglé par les théories fumeuses de l'ordre.
En conséquence, rien ne retient la main d'un tel exécuteur des basses œuvres. Il massacre d'un cœur léger, certain d'agir comme l'impose le droit et la morale. »
Nietzsche serra si fort les poings que leurs jointures en blanchirent. Dans le soudain silence, ses propos semblaient résonner à l'infini à l'intérieur du crâne de Richard. L'aura qui entourait l'ancienne maîtresse de la mort en cet instant précis était assez chargée d'électricité pour qu'un orage se déchaîne à l'intérieur du sol.
« Tout ça est d'une grande simplicité, comme je l'ai dit. »
Nietzsche secoua tristement la tête.
« Pour les peuples de l'ancien monde et une bonne partie de ceux du nouveau, il n'y a plus le choix désormais. La philosophie de l'ordre s'est imposée et les doutes n'est plus autorisés. La hantise d'être rejetée pour incrédulité paralyse les esprits. Les rares résistants sont rééduqués à la pointe de l'épée ou de la hache tout bêtement. « Il doit y avoir un moyen d'ouvrir les yeux des gens, » dit Djeba. « Ne pouvons-nous pas les ramener à la raison et les aider à se débarrasser de la propagande de l'ordre ?»
Nietzsche détourna le regard de la pitié, préférant contempler la fontaine.
« Je suis né sous le règne de l'ordre et je me suis libéré de ses mensonges. »
La magicienne se tut. On eût dit qu'elle replongeait dans le passé, revivant son interminable combat pour échapper aux griffes de l'ordre et reprendre contact avec la vie.
« Mais tu n'imagines pas, Djebra, combien il me fut difficile d'échapper à l'obscurantisme. Lorsqu'on n'a pas vécu dans l'ancien monde, il doit être impossible de se représenter ce que ressent un être convaincu du manque total de valeur de sa vie. Chaque fois que je tentais de voir les choses autrement, un linceul de terreur tombait sur moi et il m'a fallu accepter de souffrir en permanence pour commencer, je dis bien commencer, à me libérer de mon conditionnement. »
Les yeux embués de larmes de Nietzsche se posèrent sur Richard qui hocha très légèrement la tête. Pour avoir été là tout au long du processus, il savait quel calvaire avait enduré Nietzsche.
« Je suis revenu de la folie, » murmura la magicienne. « Mais ce ne fut pas du tout facile. »
Djebra parut encouragée par cette phrase, parce qu'elle était loin de tout savoir, comprit Richard.
« Si ça a fonctionné pour vous, d'autres personnes pourraient... » commença la pitié.
« Nietzsche est différente de la plupart des marionnettes de l'ordre, » intervint le sourcier. Dans les yeux de son amie, il eut à quel point il comptait pour elle, beaucoup trop sans doute par rapport à ce qu'il était en mesure de lui donner. Elle a toujours éprouvé le besoin de comprendre et d'analyser. Elle s'interrogeait sur ce qu'on lui avait enseigné et ne parvenait pas à croire vraiment à l'inutilité de la vie. Les fidèles normaux de l'ordre ne se posent pas ce genre de questions. Ils étouffent leurs doutes quand ils en ont et s'accrochent inlassablement à leurs convictions.
« Pourquoi ne pourrait-il pas changer ?»
demanda Djebra, obstinément optimiste.
« Si Nietzsche a réussi, pourquoi les autres en seraient-ils incapables ?»
Le regard toujours plongé dans celui de Nietzsche, Richard se chargea de répondre. « Parce que leur endoctrinement est devenu une part d'eux-mêmes. Ils ne le voient plus comme un ensemble d'idées discutables, mais comme l'incarnation de leurs sentiments, la mise en forme de leurs affects les plus profonds, si on préfère. C'est pour ça que ça marche si bien. » Les sujets de Jagang sont convaincus de générer eux-mêmes les idées ignobles que leur maître leur fourre dans le crâne. Détournant la tête de Richard, Nietzsche se racla la gorge et s'adressa à Djebra.
« Richard a raison. J'ai connu ce phénomène et le plus dur, justement, fut d'accepter l'idée que mes pensées, enfin ce que je tenais comme tel, ne venaient pas vraiment de moi. » Quelques habitants de l'ancien monde qui accordent en secret de la valeur à leur vie participeront à une révolution si elle a des chances raisonnables de vaincre. C'est arrivé en Alterang, ne l'oublions pas. Mais en l'absence d'espoir, les sujets de Jagang répéteront fidèlement leurs leçons afin de ne pas se faire remarquer. Dans le monde d'où je viens, on obéit ou on meurt, c'est aussi simple et aussi radical que ça.
Certains habitants de l'ancien monde luttent pied à pied pour organiser la résistance, puis allumer dans tout le pays le bel incendie de la liberté. S'il faut aider à écraser une rébellion, ils n'hésiteront pas un instant. Ces gens-là resteront fidèles à leur foi jusqu'à la tombe et même après. Ils sont...
Oui, oui.
La coupa Chota, agacée par ce long développement.
Il y a bien quelques gentils, tout le monde le sait, mais compter sur une révolte serait illusoire. Une façon d'espérer que le salut veuille bien sortir du chapeau d'un prestidigitateur. Les ordres de l'ancien monde sont chez nous, et c'est de cette menace qu'il faut nous occuper. Oublions une providentielle insurrection qui n'aura probablement jamais lieu. Les peuples de l'ancien monde, pour l'essentiel, adhèrent à la philosophie de l'ordre, soutiennent l'empereur et se réjouissent qu'il ait entrepris la conquête du monde.
Chota dévisagea intensément Richard.
Pour que notre civilisation survive, nous devons expédier les soldats ennemis dans la prairie où ils ont tellement hâte d'aller. Des hommes qui placent par-dessus tout la notion de sacrifice et qui brûlent d'envie de mourir au combat ne peuvent pas changer et encore moins se racheter. Pour arrêter l'ordre, nous devrons tuer assez de soudards pour que les autres n'aient plus envie de s'en prendre à nous.
La douleur est un beau moyen de faire évoluer les esprits,
l'approuva Kara. D'un hochement de tête, Chota la remercia de son soutien franc et massif.
S'ils comprennent qu'ils n'ont pas une chance de vaincre, courant au contraire au désastre, bon nombre de ces soudards perdront tout d'un coup la foi, j'en suis persuadé. N'est-il pas probable que ces hommes, au plus profond de leur cœur, n'aient guère envie de mourir pour une cause ou un idéal? Mais au fond, en quoi ça nous importe? Là encore, nous avons une certitude. Ces soldats, pour le moment, sont fanatisés au point d'accueillir la mort comme une délivrance. Des centaines de milliers de combattants ont déjà péri, prouvant qu'ils ne reculaient pas face à l'ultime sacrifice.
Nous devons exterminer ces chiens. Sinon, ils nous massacreront et condamneront l'humanité à une plongée vertigineuse dans la barbarie. Tel est l'enjeu de notre combat. Et la réalité de ce qui nous attend.